Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Hola, vous êtes sur Radio Canu, il est l'heure du Canu Info de ce jeudi 10 février 2022. Il est presque 20h, nous avons pris quelques secondes d'avance en lançant notre générique.
Il est 19h01.
Ah oui,
pas du tout 20h.
Oui, j'ai déjà envie de m'en aller, vous voyez, j'ai les jours, j'ai envie d'aller se coucher. Et on ne sait plus comment ça marche la Terre. En tout cas, elle est toujours ronde, elle n'est pas plate, ça c'est sûr. On ne va même pas en débattre avec vous. Je suis donc accompagnée de Laurent qui m'aura repris sur l'heure de cette journée du jeudi 10 février 2022 quand même. Je ne me suis pas trompée de date. Non. D'un peu d'heure, mais pas de date. Nous allons parler ensemble de démocratie. Si ce soir pour ouvrir cette émission, ce sera avec toi Laurent. Nous irons du côté du Burkina Faso pour parler du procès Sankara. Nous partirons en Inde, il va y avoir des grosses élections. Nous parlerons de la Cour internationale de justice de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Nous partirons du côté de Tesla aux États-Unis d'Amérique. Nous parlerons radioactivité. Oui. Tout à fait, parce que c'était le sujet du jour quand même, il faut le dire. Nous aurions même pu ouvrir par ça, pour tout vous dire. C'est moi qui ai fait le déroulé, je l'ai mal fait, voyez-vous. Nous parlerons d'élections, donc Laurent, si tu veux parler de nucléaire en tout premier, tu peux. Nous sommes dans une démocratie dans cette émission, ouais, et tu peux prendre le pouvoir pour changer le déroulé.
Démocratie, quand t'es deux, c'est compliqué. Un nombre pair, ça fout le bordel.
Ah bah toujours, ça c'est le problème. C'est pour ça que parfois il faut savoir trouver des compromis et des consensus. Nous parlerons des élections, parce que quand même, moi je trouve que c'est la première année que je me marre autant, je sais pas vous de votre côté. Et oui, bah si, quand même, vous allez voir. Il y a monsieur Wauquiez, il est pas content parce que son nom il est écrit en tout petit. On va en revenir et puis nous parlerons du soleil parce que le soleil c'est vachement bien, mais pas pour bronzer.
C'est à moi ?
Ouais.
Donc je vais ouvrir avec une info qui nous vient d'un journal anglais qui nous dit que moins de la moitié de la population mondiale vit dans une démocratie pour l'année dernière, on va dire 2021. Et dans ce classement, 21 pays seulement sur 165 pays recensés dans le monde sont dans une vraie démocratie, ce que le journal qualifie de démocratie complète. Alors c'est fait par le journal britannique The Economist, ça a été publié aujourd'hui. Alors, c'est pas très rassurant, mais rappelons quand même un petit truc, hein. The Economist, c'est un journal libéral, anglais, purement libéral. Ils n'ont pas d'autres idées en tête. D'ailleurs, c'est très axé sur l'économie, mais c'est normal, ça s'appelle The Economist. Donc en fait, ils sont très à cheval sur les libertés individuelles et pas très friands des mesures qui sont un peu collectives. Donc ça permet de relativiser un tout petit peu les résultats. Mais en fait, ça relativise juste un tout petit peu. C'est ça qui est plutôt inquiétant. Donc dans cette étude qui est faite donc par la division recherche et analyse de ce groupe de presse anglais, ils font une note d'indice de démocratie. On est passé en 2020 de 5,37 à 5,28. Alors c'est 28, c'est un calcul compliqué avec plein de critères, etc. etc. On n'a pas le détail hein, d'ailleurs, mais c'est un truc sérieux quand même ce qu'ils font. Et ils nous disent que c'est la plus forte baisse pour eux de la démocratie depuis 2010. Alors, les résultats reflètent notamment, alors toujours d'après eux, hein, l'impact négatif de la pandémie sur la démocratie et la liberté dans le monde pour la deuxième année consécutive avec, je continue de citer, hein, l'extension considérable du pouvoir des États et l'érosion des libertés individuelles. Donc là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la limite de ce genre d'études faites par des libéraux qui ne pensent qu'aux libertés individuelles. Puisque si on prend des restrictions sanitaires dans le but est de sauver ou de protéger d'autres personnes, c'est pour eux une baisse de démocratie d'imposer une mesure collective qui sauve des gens. Hein. Donc, alors certes, il y a des manières de prendre des mesures collectives et elles ont un impact plus ou moins fort dans leur étude, mais ça refixe un petit peu les choses. Ce qui n'empêche pas que leurs résultats sont très intéressants. Alors en Europe, l'Espagne par exemple a diminué, elle était une démocratie complète en 2021, elle est passée au stade en dessous, on appelle ça une démocratie défaillante chez The Economist. Je trouve que c'est pas forcément très justifié hein, en termes sur l'Espagne. La France y est depuis un moment, faut dire qu'il y a eu pas mal de répressions policières ces dernières années.
Ouais mais c'est pas dû qu'à ça, enfin ce que je veux dire c'est que ce serait un peu facile de croire que c'est dû par nos gilets jaunes.
Non, mais les répressions policières n'ont pas touché que les gilets jaunes.
Mais voilà, mais ce que je veux dire c'est qu'on a l'impression que c'est la pandémie et les gilets jaunes, alors qu'en fait, ça fait longtemps que la France n'est pas super bien classée.
Oui. Donc voilà, bon, on connaît l'histoire. Alors, dans les pays qui sont dans la catégorie, comme nous, de démocratie dite imparfaite, alors en fait, le vrai terme, hein, c'est pas ça, c'est démocratie complète ou, et j'ai perdu l'autre terme d'ailleurs, bah, voilà, ça y est.
Défaillant,
une démocratie défaillante. On retrouve les États-Unis, Israël, l'Afrique du Sud, qui sont dans la même catégorie. Alors, c'est qui les boss? Alors, c'est là où des fois, c'est un peu surprenant, parce que on retrouve la Suède. Il y a un consensus dans la société suédoise qui fait qu'effectivement, il y a moins de mesures autoritaires ce qu'on peut percevoir, nous, dans ce qu'on peut avoir chez nous, dans des démocraties où l'État est très très fort.
Pourtant, la Suède, ça a beaucoup changé. On en a en France souvent une image qui serait une démocratie de gauche, alors que ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, oui. C'est plutôt une démocratie très conservatrice et libérale. En tout cas, conservatrice et libérale, ça a beaucoup changé. Et on n'est plus dans cette vision qu'on pouvait avoir dans les années 90 d'un pays très ouvert.
Mais sur plein de domaines, effectivement, voilà. Ils sont beaucoup plus démocratiques que nous. On retrouve le Luxembourg, donc un paradis fiscal. Donc on peut être paradis fiscal et très démocrate, il n'y a pas de souci là-dessus, malheureusement. Le Royaume-Uni est en train de baisser parce qu'ils ont perdu des points. Donc ils se rapprochent de la démocratie défaillante. On retrouve la Corée du Sud, le Japon, l'île Maurice ou Costa Rica. Alors je dirais que les mesures sanitaires n'ont pas toujours un impact ultra négatif. La preuve, dans les BOS, dans les pays les plus démocratiques, il y a la Corée du Sud ou le Japon. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand même des pays, alors notamment la Corée du Sud, qui est capable de réprimer très fortement les contestations sociales. Mais actuellement, avec le gouvernement qu'ils ont, c'est plutôt calme. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont dans cette catégorie au jour d'aujourd'hui. Et ils ont pris des mesures sanitaires assez draconiennes, mais qui est très acceptée. Le processus n'est pas le même qu'ici. Et du coup, elle ne les défavorise pas tant que ça. C'est pour ça qu'elle reste dans ce statut de belle démocratie. Hein, de démocratie complète, suivant The Economist. Bon, ensuite, donc ça c'est les deux premières catégories. Bon, ça reste des démocraties. Hein. Il y a la liberté de la presse, on a à peu près le droit de dire ce qu'on veut sans se finir en tôle. Ben voilà, ça va à peu près. Et puis après, il y a les régimes hybrides. Donc ceux qui font semblant d'être des démocraties, mais qui n'en sont pas. Donc là, on retrouve le Bangladesh, le Sénégal, l'Ukraine, Hong Kong, la Tunisie. Alors la Tunisie, je pense que dans 15 jours, ils sont passés dans l'autre catégorie d'en dessous. Hein. Il y a, d'ailleurs, c'est la Tunisie qui enregistre la plus forte baisse hein, en termes de défaillance de la démocratie, de disparition de la démocratie. Alors, ils n'ont pas les seuls. Hein, y a Hong Kong hein, qui a beaucoup perdu, puisque la Chine est en train de reprendre la main sur l'île. Dans les régimes, alors le dernier, c'est les régimes autoritaires, donc c'est-à-dire les dictatures. On retrouve l'Algérie, l'Égypte, la Russie, le Rwanda, le Vietnam, la Chine. Voilà. Et le tout dernier pays, parce qu'il faut quand même dire le pire sur la planète aujourd'hui, il s'agit d'un régime religieux, ce sont les talibans et le régime qu'ils imposent en Afghanistan. Donc voilà, aujourd'hui c'est le régime le moins démocratique du monde. Bah, de toute façon, si vous regardez les images de ce qui se passe, les femmes vont plus à l'école, enfin bon voilà.
Tu veux dire que la Corée du Nord, ils sont plus démocratiques qu'à l'Afghanistan dans leur truc? Ou que la Corée du Nord a été exclue de cette...
Non, ils y sont, la Corée du Nord, mais bien sûr qu'ils sont. D'abord, alors, on va pas dire... C'est proche quand même.
Déjà. Alors c'est pour ça que ça...
C'est proche en termes de dictature. Mais la population homme-femme, par exemple, a à peu près la même égalité de
c'est
merde.
Non, mais
de
merde. Tu peux finir dans un camp.
Que tu sois un homme ou une femme. Voilà. Ouais, alors qu'en Afghanistan, le régime religieux des talibans est super contraignant et liberticide pour les femmes et un peu liberticide pour les hommes. C'est pas non plus gagné. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a fait une échelle. Et puis c'est comme un classement. Quand tu es avant-dernier, je sais pas du coup où ils sont, j'ai pas noté leur classement, mais s'ils sont avant-dernier, c'est pas très loin d'être le dernier non plus. Mais c'est pour rappeler que l'Afghanistan, qui était bien plus haut ces dernières années, avant l'arrivée des talibans, alors c'était pas non plus le pays le plus démocratique du monde, hein, mais il y avait un bout de démocratie, tout a disparu, bien évidemment, avec l'arrivée des talibans, enfin la reprise du pouvoir des talibans. Voilà, c'était juste ça pour parler un peu de démocratie.
Et juste pour en remettre une couche.
Alors, oui,
contre la Suède. non, mais pays, tu sais, c'est un peu comme le Danemark qu'on a beaucoup encensé. Il y avait un cadre de vie, on avait des meubles Ikea, tout ça, tout ça. Un art de vivre, hein, qu'on a beaucoup copié à travers le monde. Aujourd'hui, il y a donc un gouvernement libéral. Je voudrais juste rappeler que ce gouvernement veut aujourd'hui chasser ses immigrés, ses migrants et ses réfugiés. Il y en a marre, il y en a trop. Alors que c'est pas le pays qui est le plus.
Mais ça empêche pas la démocratie.
Accueillir. Ça empêche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que.
Si tout le monde est d'accord, s'il y a un vote, ou si c'est demandé. Démocratiquement, tu peux être le pire fasciste.
Ce que je veux dire,
monde.
C'est que ce classement ne reflète pas non plus une réalité des droits humains.
Non, c'est pas le but.
Et la bienveillance. Hein, il ne faut pas mélanger tout.
Le but, c'est de montrer quel le système, s'il est démocratique, c'est-à-dire si finalement les hommes et femmes politiques prennent des décisions en respectant ce qui a été décidé lors des élections, des choses comme ça. Et puis qu'il y a de la liberté de la presse, on a le droit de dire ce qu'on veut, etc. Ce qu'on notera quand même, ils défendent une démocratie dite libérale, c'est-à-dire la démocratie représentative. Donc pour eux, c'est le summum. En fait, on sait très bien que c'est pas le summum. Le vrai summum, c'est la démocratie, la vraie, celle qui dit le pouvoir au peuple, c'est-à-dire l'autogestion, la démocratie directe. Mais ça, The Economist, pour eux, c'est un gros mot. Ils imaginent même pas ça.
En même temps, on n'a pas vraiment de cas non plus à valoriser tellement.
Oui, mais il pourrait y avoir une catégorie idéale qui est pour l'instant inatteignable.
Oui, mais sauf qu'ici, ils font un truc au réel, lui situer la catégorie idéale. Ça, c'est un autre débat.
Il
n'y
a
si
donc effectivement aucun pays qui est en démocratie
idéale.
Directe.
On va l'appeler comme ça, mais dans cette catégorie idéale. Bon, c'est à moi. Je vais vous parler du procès Sankara. Vous savez qui c'est, Sankara ?
Thomas
Sankara.
Il est mort.
Mort, c'était en 1987, le 15 octobre 1987. Thomas Sankara qui a représenté un espoir pour beaucoup d'Africains et d'Africaines, pas simplement dans son pays, mais à travers tout un continent.
Ouais, quand même beaucoup au Burkina, du coup.
Ouais, mais quand même. Ouais. Hein, je veux dire, ça a été un symbole contre la colonisation, pour la démocratie, pour les libertés, pour les droits humains. Il a été assassiné le 15 octobre 87 et depuis le mois d'octobre, il y a un procès historique, il faut le dire, qui se tient pour tenter de juger les commanditaires de cet assassinat des années 80. Alors, c'est un procès qui se tient dans une situation un peu particulière, on va y revenir après, puisqu'il y a eu
un
coup d'état militaire hein, il y a quelques semaines, et puis il y a une situation ce qu'on appelle sécuritaire, militaire, puisque c'est un pays aussi qui connaît des attaques djihadistes hein, sur le territoire. Donc, le principal accusé dans ce procès, c'est Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso, qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, parce qu'il s'est barré, et qui, globalement, il s'est barré. Donc, c'est bien malheureux qu'il soit pas là pour être jugé avec d'autres comparses de cet assassinat lors du coup d'État le 15 octobre 1987. il est Thomas Sankara, c'était son prédécesseur, hein, donc il est particulièrement visé. Le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. C'est 30 ans de prison ferme qui ont été demandés contre Blaise Compaoré. Alors, il a été chassé hein, en 2014. Hein,
du pouvoir. Avec un beau mouvement populaire ouais, qui était très classe. Ouais.
Du côté, donc il est parti, hein, il a fui le pays.
Là, en Côte d'Ivoire. Ouais.
Et il est en Côte d'Ivoire, et donc il n'est pas là pour son procès, ce qui est la famille de Sankara et de ses avocats, et de toutes les parties qui souhaitent rendre hommage aussi à Thomas Sankara. C'est une tristesse, en fait, de ne pas pouvoir avoir cet homme en face d'eux et d'elle. Alors, il y a aussi 30 ans qui ont été requis contre le commandant de la garde Hyacinthe Kafando, qui est soupçonné hein, d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara. Thomas Sankara, on rappelle, il n'est pas mort tout seul. Hein. Ça a été une exécution, c'est-à-dire que les gens qui étaient avec lui étaient assassinés. Là, les gardes qui étaient là, il y a une organisation, et c'est à ça qu'a servi aussi ce procès. C'est à reconstituer cette journée du 15 octobre 1987, pour comprendre ce qui s'était passé, et puis pour marquer l'histoire, bien évidemment, parce que c'est un procès, comme je vous le disais, qui est historique. 20 ans de prison ont été requis contre le général Gilbert Diane Déré, un des chefs de l'armée, hein, lors du putsch en 87.
C'est peut-être lui qui a tué.
Principal accusé, présent. Ouais. Donc lui, il fait
oui, c'est un des rares.
Ouais. Pour l'instant, il purge une peine de prison de 20 ans pour une tentative de coup d'État en 2015. Il y en a comme ça, des hommes hein, qui portent... le peu de, pas de démocratie en eux, je cherche une manière de le dire. Ouais. Et puis ensuite, il y a plusieurs personnes contre lesquelles ont été requis entre 3 et 20 ans de prison. Quelques personnes ont des acquittements pour faits non constitués, voilà, ou pour prescription, parce qu'il faut quand même se rendre compte que bah, ça c'est vieux maintenant et que effectivement tout le monde ne va pas pouvoir être jugé condamné en tout cas. La majorité a plaidé non coupable, hein, c'est le cas de Blaise Compaoré. Ses avocats ont expliqué que de leur côté, ils estimaient que c'était un tribunal d'exception.
Ben, ce qui est... ouais.
Mais tout ça n'avait pas lieu d'être.
Ouais, c'est historique voilà. Quand même.
Donc, je vous le disais, l'important, ça a été aussi de rappeler ce qui s'était passé en 87. Thomas Sankara, il était là depuis 1983. On a voulu se débarrasser de lui, très clairement, pour prendre sa place, et puis pour tuer aussi une révolution et une modification.
Oui, alors dans le 11, c'est pas bien, parce que non. Là, ceux qui sont jugés, c'est ceux qui étaient directement sur place. Donc, le bras armé, un petit peu, de cet assassinat.
Compaoré qui est, lui, accusé d'avoir commandité directement, peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, lui, il est accusé comme commanditaire et les autres comme exécutant. C'est ça qu'il faut comprendre.
Il y a quand même beaucoup de suspicions sur des interventions extérieures, puisque Blaise Compaoré, ensuite, a été entièrement soutenu instantanément par la France.
Ouais.
Et il y a quand même un énorme doute sur la participation de la France. Et la France, moi, je pensais qu'elle jouerait le jeu, puisque Macron est en train de lâcher plein de trucs sur l'histoire. Et c'est son dada. Il a même fait un hommage aux militants communistes assassinés par les flics au métro Charonne. C'est un peu son truc d'accepter les horreurs de l'histoire passée des régimes français, des autorités françaises. Et là, il ne l'a pas fait. Ils n'ont pas ouvert les archives, ils n'ont pas donné...
Ouais,
les...
Mais ça n'empêche pas que ce procès, c'est aussi le procès d'un pays et de ses dirigeants. Et c'est aussi ça qui importe, c'est-à-dire que c'est pas le procès de la France et d'une autorité étrangère
qui aurait pu. Mais c'est pas ça. Donner les vraies
infos. Là, c'est quand même de vouloir dire il y a un commanditaire, il y a des exécutants. Ce qu'on a appris hein, sur ce procès depuis le mois d'octobre, c'est qu'il y a donc un commando qui est arrivé dans la salle des réunions, qu'il s'est séparé en deux groupes, que ça a investi les lieux, que d'abord c'est les gardes de Thomas Sankara qui ont été exécutés, et puis ensuite c'est Sankara et ses proches qui ont été sortis et qui ont été abattus, exécutés. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre hein, qui s'est passée, ce n'est pas un affrontement, c'est une exécution. Donc, le procès est interrompu hein, avec ce coup d'État du 24 janvier. Il a pu reprendre le 2 février derrière. Il y a donc les plaidoiries des parties civiles. Il y a une demande là maintenant des avocats, des accusés, d'avoir une interruption. Donc ça va reprendre au 1er mars prochain. Hein, le procès est pour l'instant suspendu. La famille rappelle qu'est-ce qu'elle veut, c'est pas la vengeance, hein, c'est
la vérité.
La vérité et la justice, et puis que on puisse condamner aussi au Burkina Faso des gens qui sont à la tête ou qui ont été à la tête du pays. Pour vous rappeler donc ce qui s'est passé le 24 janvier dernier, il y a eu une mutinerie hein, dans plusieurs casernes du pays. Il y a le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, présidé, dirigé, commandé par le lieutenant-colonel Damida qui a forcé Rochemarc Christian Caboret a abandonné le pouvoir et sa position de président. Il est placé donc en résidence surveillée à Ouagadougou. Là, on a appris hier, mercredi, que le Conseil constitutionnel a indiqué que Paul-Henri Sandaogo Damida, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est le président du Burkina Faso, chef d'État et chef suprême des armées. Là, il n'y a pas encore eu prestation de serment. Mais c'est fait, c'est-à-dire que en fait, c'est rétroactif depuis le 24 janvier. Il est donc dit président du Burkina Faso. Alors, samedi, on a appris que M. Damida a annoncé la création d'une commission composée de 15 membres, histoire d'élaborer un projet de charte et d'agenda pour une proposition de la durée de transition et des modalités de mise en œuvre dans un délai de 2 semaines. Ça, c'est censé se faire vite. On a appris aussi que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle la CEDEAO, et l'Union africaine ont suspendu le Burkina Faso à des différentes instances. Pour l'instant, il n'y a pas plus de réaction.
À la vitesse des coups d'État en ce moment, la CEDEAO, dans 15 jours, il n'y a plus aucun État.
Je suis d'accord. Mais voilà, c'est bien pour ça qu'il y a juste une suspension, hein, qu'il n'y a pas plus d'intervention. Du côté du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, hier, on s'est dit gravement préoccupé. Ça aussi, c'est une histoire de vocabulaire. Pas un peu préoccupé, pas préoccupé, mais gravement préoccupé par le changement anti-inconstitutionnel du gouvernement au Burkina Faso le 24 janvier. C'est une déclaration adoptée à l'unanimité, mais il y a eu beaucoup de difficultés hein, pour arriver à ça. La Russie a fait force pour qu'il y ait un texte qui ne soit pas trop dur contre le nouveau homme fort du Burkina Faso. C'est marrant de retrouver à chaque fois la Russie dans des positions... excentré par rapport aux autres membres hein, de ce Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça a été une négociation assez difficile pour arriver à ce texte, c'est-à-dire qu'il est sorti hier, hein, le coup d'État c'est le 24 janvier, mercredi 9 février, ça fait un peu du temps de réflexion quand même. Mais la Russie a vraiment mis des barrages hein, pour arriver à ce qu'il y ait un texte qui puisse être proposé, donc on arrive à cette chose un peu...
La Russie a reconnu tout de suite hein, le coup d'État et les nouveaux dirigeants et ils n'ont pas envoyé des hommes. Il faut rappeler quand même un truc, c'est qu'ils sont pas mal soutenus par la population malgré tout ces militaires, parce que le président était un petit peu rejeté, et notamment sur les problématiques des groupes religieux terroristes qui terrorisent la population d'une partie du Burkina Faso. Et du coup, quelque part, il y a une légitimité de ce régime qui est triste à dire, hein, mais qui a une petite légitimité à cause du soutien d'une partie de la population.
Mais tu vois, regarde, le procès a pu se continuer. Enfin, il y a des choses qui... La vie semble pouvoir se maintenir à des endroits. En même temps, c'est un pays qui vit aussi avec, je vous disais, les attentats djihadistes. Donc, tous les territoires ne sont pas faciles au Burkina Faso. Il y a des endroits où ça va très bien. Mais voilà, d'un seul coup, on a un procès qui peut, historique certes, mais qui continue. Je veux dire, c'est pas un coup d'État qui a empêché d'un seul coup le pays de fonctionner.
Non, ils sont pas allés super loin encore dans les mesures autoritaires, mais c'est quand même pas rassurant.
Non,
la démocratie, elle était toute jeune, puisque on peut pas dire que sous Blaise Compaoré,
c'était la
démocratie. Donc c'est tout récent et elle n'aura duré que 2-3 ans, quoi. Donc c'est le côté inquiétant.
Et puis que ça soit une junte militaire encore une fois, c'est toujours inquiétant quand des militaires prennent le pouvoir. Voilà. Moi, d'entendre dire que c'est un.
À savoir qu'il y a un côté démocrate qui existe, puisqu'il y a des journaux, les gens parlent.
Ouais.
Voilà, c'est.
Ah oui, c'est un pays vivant, Burkina Faso. C'est pas un pays qui a été.
Non, fallait pas être trop opposant, parce que c'est bon, quand même.
Allez, on va partir maintenant du côté de l'Ouganda et la République démocratique du Congo. La Cour internationale de justice, hein, vous savez, qui est à La Haye. Il faut se souvenir qu'en 2005, cette juridiction avait jugé que l'Ouganda devait être indemnisé pour l'attaque contre son ambassade à Kinshasa en 98. Hein. Donc, plusieurs fois, l'Ouganda est aussi concerné hein, par cette Cour internationale de justice. C'est un territoire, des territoires sur lequel il y a eu un certain nombre de guerres, d'exactions, qui font qu'aujourd'hui, on en a encore des répercussions. La République démocratique du Congo a accusé l'Ouganda d'actes de barbarie lors d'une audience en avril 2021. Il faut se souvenir qu'il y a eu un territoire qui a été envahi. Et là, je vais commencer tout de suite par la fin pour vous dire que la Cour internationale de justice a hier, mercredi 9 février, fixé à 325 millions de dollars le montant des réparations de l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui doit verser à la République démocratique du Congo cette indemnité pour l'invasion de l'Ouganda à l'est de la République, je vais y arriver, démocratique du Congo. C'est-à-dire que quand il y a eu cette invasion, c'était la guerre de 98-2003, et donc il y a une réparation qui est demandée. Alors, elle était de 11 milliards de dollars, la demande d'indemnisation de la République démocratique du Congo, donc on en est loin. Hein, avec 325 millions de dollars. Mais l'Ouganda et la RDC n'avaient jamais réussi à se mettre d'accord. Donc c'est finalement la Cour internationale de justice qui a tranché et pris une décision. Alors il y a eu des experts, hein, ça ne s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Alors il y a 225 millions de dollars qui sont versés pour les pertes en vies humaines, 40 millions de dollars pour les dommages aux biens et 60 millions de dollars pour les dommages aux ressources naturelles. Parce que dans cette invasion, il y a eu... un certain nombre de morts, bien évidemment. Mais il y a aussi du pillage de ce qu'on appelle du pillage de ressources naturelles. Là, la Cour estime que la réparation pour les personnes décédées, c'est entre 10 et 15 000. Vous voyez, on monnaie quand même la vie des morts. C'est toujours un peu particulier de mettre des sous derrière les morts. C'est un combat quand même, là, 98-2003, c'est quand même un conflit qui avait impacté 9 pays hein, quand même dans cette région. Là, je vous parle de l'Ouganda et l'RDC, mais il y avait le Rwanda aussi. Et donc, il y avait des forces rebelles. Hein, et tout ça, évidemment, s'intéressait aux ressources naturelles, aux minerais en particulier, dans cette partie de l'Afrique. Il y a eu des guerres sur la RDC qui ont été dévastatrices. Il y a eu des milliers de morts. Le pays met toujours du mal à s'en remettre. Je suis pas sûr que ce soit l'argent qui va aider sur place, parce que là aussi, il va falloir qu'il y ait un peu de démocratie. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Mais enfin, c'était juste pour vous raconter ça. Et puis en Inde, on a des élections qui sont des élections régionales qui vont avoir lieu à l'Uttar Pradesh. C'est au nord de l'Inde. Ça commence aujourd'hui, jeudi 10 février, et ça va durer un mois. Alors, l'Uttar Pradesh, c'est un territoire bastion du BJP. Le BJP, c'est le parti au pouvoir depuis 2014 de Narendra Modi, d'extrême droite, ouais. Raciste. Conservateur. Cet État, c'est l'État le plus peuplé du pays, c'est aussi le plus pauvre. Et aujourd'hui, son gouverneur est membre du BJP et c'est un extrémiste anti-musulman assez caractéristique de ce qu'on peut trouver dans le mouvement raciste en Inde. Alors, en 2017, c'est ce parti nationaliste qui avait gagné ces élections régionales. Cette année, c'est des élections qui sont importantes parce que, avec dans ces élections régionales, on renvoie des députés au niveau national. Donc, si jamais le BJP gagne ces élections dans l'Uttar Pradesh, elle le gagne au niveau national, c'est-à-dire que c'est un peu en pratique de législative, vous avez plein de gens et derrière vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau national. Je vous rappelle que l'Inde, c'est pas comme chez nous, il y a plusieurs territoires, que l'importance des régions au niveau aussi des décisions et des élections, elles sont extrêmement importantes. Reste que c'est un territoire très important et M. Modi espère bien gagner ce territoire, cette région, pour pouvoir s'asseoir au niveau national et puis continuer à asseoir son parti. Alors il y a, je vous le disais, c'est le plus peuplé, 200 millions d'habitants dans l'Uttar Pradesh. Ça va élire entre... j'ai perdu le nombre de députés, dites-moi. Bah écoutez, vous irez le chercher sur Wikipédia, ça vous fera à peu près pareil. Donc là, il faut absolument gagner. Alors, il est intéressant, pour l'instant, ce gouverneur Aditya, qui essaye de se faire réélire, parce que c'est un moine soldat, raciste, et qui appelle à la haine des musulmans et des musulmanes assez constamment. Il faut savoir qu'il lui-même a monté un groupe qui ressemble à une milice pour aller faire vengeance de je ne sais quoi, parce que on n'a jamais bien compris ce qu'il y avait à venger. Mais en tout cas, il y a une haine extrêmement forte religieuse qui est en place. Et donc il appelle assez constamment à des violences. pour que les hindous puissent être majoritaires. Alors on dirait un peu du Zemmour des fois dans le texte, hein, puisqu'il dit par exemple qu'il y a 80% de la population contre 20% de criminels, hein, c'est-à-dire qu'il dit que les comme Monsieur Zemmour, hein, qui nous dit que chez les musulmans, comment il nous avait dit sorti ça là, qu'il y a beaucoup de voyous et de criminels et de délinquants, c'est ça? Et ben là c'est exactement la même chose, hein, c'est une haine assez particulière. Donc il y a 20% de musulmans dans cet état, donc ils sont loin d'être majoritaires, hein, mais ça aussi c'est exactement les propos, hein, de monsieur Zemmour et de tous ceux et toutes celles qui pensent qu'il y a un grand remplacement sur les territoires. On retrouve exactement les mêmes logiques, hein, politiques et de pensée assez uniques, hein, là-dessus. Donc il faut savoir qu'il y a des lois qui sont mises en place dans l'Uttar Pradesh, donc les mariages mixtes sont interdits. Et quand on parle de mariage mixte, on parle évidemment de mariage religieux, mais le mariage de caste, même si les castes sont plus censés être
exister,
ouais, elles existent toujours, hein, dans la pratique. Mais là, les mariages mixtes sont donc interdits. Et tu peux prendre 10 ans de prison, hein, voilà. C'est une lutte contre le love jihad, ça s'appelle comme ça.
Ouais, ça fait un moment qu'ils ont cette théorie là que les musulmans hommes essaieraient de séduire les femmes hindouistes
pour le remplacement.
Donc c'est un grand remplacement religieux, c'est pour les convertir ensuite à l'islam. C'est assez effroyable comme théorie parce que elle ne repose sur bien évidemment rien.
Eh ben non, évidemment, c'est ce que je vous disais. Et donc, ce gouverneur appelle constamment à la délation. Donc là, cette victoire dans ces élections, elle est extrêmement importante. Alors, il y a un mois qui va s'écouler. Des observateurs et observatrices sur place espèrent qu'il n'y aura pas trop de violence. Parce que ce sont des élections qui parfois amènent à une violence contre des minorités, contre des groupes et contre aussi des femmes qui voudraient pouvoir aussi s'exprimer parce que c'est un parti conservateur et nationaliste et donc conservateur.
Et religieux du coup.
Et religieux.
C'est bien la prégnance de la religion qui est le plus problématique. Qu'il soit conservateur, on n'en doutait pas. Il y a eu d'autres partis conservateurs en Inde. C'est le fait qu'aujourd'hui, ce soit la religion, et les religions sont toutes néfastes, hein, quoi qu'il arrive, c'est bien le fait qu'il ait instrumentalisé cette religion qui entraîne... pas mal de violence, hein, parce que ça donne des idées à plein de ses amis.
Alors, BJP se fait quand même un peu du souci, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu des manifestations des fermiers en Inde.
Qui avaient fait plier pour une fois le gouvernement.
Et ces fermiers ont beau être hindouistes, il y a une difficulté aujourd'hui pour certains et certaines à se dire on va aller voter encore pour le BJP, parce que finalement, ils ne nous répondent pas. Et ce que nous, on veut, en fait, ce n'est pas tant de la religion que c'est bouffé. Et c'est avoir du pognon, en globalement, on en revient toujours un peu à la même chose. Et puis, il n'a pas très bien géré la crise sanitaire due au Covid-19. Il y a eu beaucoup de critiques, donc ça aussi, ça pèse dans la campagne.
On rappelle, ils n'ont jamais donné le vrai nombre de morts, hein, qui serait estimé entre 3 et 4 millions, rien qu'en Inde.
Ouais, non, mais c'est ça, donc tout ça...
Ils n'ont pas joué franc jeu avec leur population, ni avec personne.
Et puis, ce gouverneur, lui, il vient d'une caste haute.
Oui.
T'es pas très étonné. Mais c'est vrai qu'il a aussi pas mal distribué de l'argent à des groupes.
Ses amis.
À ses amis ou à ceux qu'il aimerait bien que ce soit des amis. Tu vois, oui. C'est-à-dire à des groupes un peu précis. Donc ce qui fait que le pognon il s'échappe et c'est pas juste une histoire de pouvoir d'achat, c'est que il y a la corruption, le pognon il échappe et que ce mouvement des fermiers s'est répercuté sur le reste aussi de la population. Donc c'est la région la plus pauvre, hein, je vous le disais, en Inde, c'est le seul endroit où le revenu par habitant a baissé depuis 3 ans. Ça, c'est pas le cas ailleurs, hein. En tout cas pas aussi systématique. Il y a un taux de chômage extrêmement élevé, très forte pauvreté, donc tout ça pourrait jouer contre BJP, mais malgré tout, on pense qu'il y a une force déjà, une puissance économique de ce parti qui est au pouvoir aujourd'hui en Inde et qui pourrait permettre, grâce à ce pognon qu'ils ont, hein, quand même, de pouvoir aussi de faire une belle propagande et une campagne assez forte, parce que le BJP est extrêmement présent dans les médias. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, beaucoup d'utilisation de l'espace public, et ça, du coup, ça fait taire l'opposition de fait. Quand elle est l'opposition, se fait pas carrément taper dessus. Donc voilà, un mois d'élection qu'on pourra suivre. C'est encore à moi ? Tu veux pas faire du nucléaire ?
Non.
Non. Alors, on va parler de Tesla, une multinationale. Si tu veux pas parler de... On en parlera juste après du nucléaire.
Oui, tout à fait.
C'est California... Je ne vais pas vous le dire deux fois. Donc après, je vous dirai l'agence. La California Department of Fair Employment and Housing, c'est une agence d'État californienne qui a porté une plainte devant un tribunal californien hier mercredi contre Tesla. la multinationale qui construit des super voitures, paraît-il, pour ségrégation raciale à l'encontre des travailleurs noirs et des travailleuses noires. La plainte dénonce un environnement hostile et s'appuie sur une enquête de 3 ans avec des centaines de plaintes de travailleurs. Ça serait des faits qui se seraient déroulés, alors en tout cas l'enquête porte sur des faits qui sont déroulés dans l'usine de Frémont entre 2015 et 2019, c'est assez précis. Et comme cette agence d'État ne fait pas les choses à moitié, non seulement elle a déposé la plainte, mais elle a publié une partie des extraits de la plainte. Donc on apprend des trucs magnifiques qui se passent dans cette usine, ou qui se sont passés en tout cas, des choses magnifiques dans cette usine de Frémont de Tesla. Parce que Tesla, vous savez, ça veut quand même avoir une belle réputation, hein. C'est vrai, hein. Et ben voilà, c'est tout pourri. Donc, cette agence a trouvé des preuves, hein, je cite, que l'usine Tesla de Frémont est un lieu de travail soumis à la ségrégation raciale. Les travailleurs noirs y subissent des insultes raciales et des discriminations en termes de tâches, de discipline, de rémunération et de promotion, ce qui crée un environnement de travail hostile. Les faits dans cette affaire parlent d'eux-mêmes. Toute la journée, tous les jours, les employés noirs ou afro-américains entendent des insultes raciales sur les travailleurs noirs de la part d'autres salariés, de chefs et de managers. Je vous cite des petites parties. Hein. Comme l'usine est racialement ségrégée, les employés de l'usine appelaient les zones où de nombreux Africains travaillaient, la Port Monkey Station. Vous avez entendu le mot monkey, c'est-à-dire singe, déjà, vous savez que ça va être pourri. Station, on va dire que c'est l'endroit, la zone, le lieu. Globalement, c'est... moi, si je voulais le traduire d'une manière un peu brutale, je dirais les singes qui foutent rien, qui brandent rien, plutôt. Qui branlent rien, voilà. Mais il y a certainement une traduction... plus littéraire et littéral d'ailleurs. Il y a une employée qui s'est entendue dire par des collaborateurs et des chefs, ferme ta gueule négresse, et tous les noirs se ressemblent.
Wow, travailleur, c'est magnifique, Tesla, hein. Dis donc.
Un travailleur noir a entendu ce genre d'insultes jusqu'à 50 à 100 fois par jour. Pour beaucoup de travailleurs noirs, le stress du harcèlement racial généralisé, le risque d'altercation physique avec les harceleurs, la discrimination flagrante, la discipline disproportionnée et l'inaction en cas de plainte ont rendu leur conditions de travail intolérables et ils ont démissionné. Donc la plainte, elle rappelle que déjà il y a l'insulte raciale, hein, de se faire traiter de négro ou de négresse, c'est ce qui s'est passé dans cette usine de Frémont, que les salariés noirs, hommes et femmes, étaient assignés à des tâches plus difficiles physiquement, moins bien payées et que c'était assez systématique, que nombreux et nombreuses noirs ont été licenciés pour des infractions sans intérêt mineures sur lesquelles les salariés blancs et les salariés blanches, eux, n'étaient absolument pas touchés, finalement. Beaucoup moins de promotions en interne, bien évidemment. Donc, il y a eu des plaintes, hein, qui ont été déposées, de toute façon, à Tesla pour discrimination raciale, mais aussi pour harcèlement sexuel. Parce qu'il paraît que ça va aussi ensemble. Il n'y a pas très longtemps, c'était en octobre dernier, en Californie, il y a un tribunal qui a condamné Tesla à verser 137 millions de dollars de dommages et intérêts à un ancien salarié noir qui avait porté plainte puisqu'il estimait que Tesla avait fermé les yeux sur le racisme qu'il subissait dans l'usine de Frémont. Donc c'est des choses qui se poursuivent, qui sont aujourd'hui dévoilées. En tout cas là, sur des faits qui remontent de 2015 à 2019, comme je vous le disais. Du côté de Tesla, on dit que c'est quand même un peu dégueulasse d'avoir sorti tout ça sans jamais en avoir fait part d'abord à la direction du groupe Tesla. Hein, parce qu'il aurait d'abord fallu les prévenir, plutôt que tout balancer dans la presse et d'aller porter plainte. Et puis que quand même, la main sur le cœur, ils ont toujours été contre la discrimination et le harcèlement, qu'il soit sexuel ou racial, et que d'ailleurs, ils ont même mis en place une petite commission en interne pour gérer tout ça. Bon, a priori, ça marche pas bien. Tesla a demandé au tribunal de suspendre les poursuites, carrément, puisqu'a priori, toutes ces plaintes ne semblent pas assez percutantes pour que Tesla prenne des mesures radicales au sein de son usine de Frémont.
Alors, on va parler un peu de nucléaire, avec les infos du jour, vous avez peut-être tous entendu, toutes et tous entendu. D'abord l'annonce d'EDF, hein, qu'on attendait, et qui est officielle de ce jeudi 10 février. L'entreprise EDF, pardon, Électricité de France, rachète une partie de la branche de General Electric, celle qui avait été vendue par Macron quand il était ministre de François Hollande. Donc ça coïncide pile poil, c'était prévu, hein, avec la visite de Macron à Belfort, j'en parlais tout de suite derrière. Donc voilà, alors Macron il s'était pris ça en pleine gueule parce qu'il y avait eu un peu de suppression d'emplois et puis parce que on vendait une branche de l'industrie à General Electric. Bon, il y avait eu tout un pataquès, là il essaye du coup de se rattraper en obligeant, hein, parce qu'il faut quand même voir ce qui est. EDF a été obligé par le gouvernement et par Macron donc de racheter cette branche qui fabrique les plus grosses, les très très grosses turbines, là, celles qu'on trouve comme par hasard sur les centrales nucléaires d'EDF. parce qu'il y a un sens à tout ça, hein, quand même, un sens industriel pour soutenir la filière nucléaire, puisque c'est de ça dont il est question toute cette journée. Donc c'est stratégique si on veut continuer à faire du nucléaire. Et c'est bien pour ça que c'est mis en œuvre. Il faut savoir que ça va servir pour les prochaines centrales, les EPR ou les EPR2, la deuxième génération d'EPR, celle qui fonctionnera peut-être un jour. On rappelle que sur l'EPR actuel, qui a été lancé en 2006, il aurait dû être connecté au réseau 6 ans plus tard, en 2012, sauf que les EDF, Areva, alors ça a changé de nom 14 fois, hein, c'est Orano maintenant, est incapable de respecter ses délais, est incapable de construire correctement une centrale nucléaire, est incapable de respecter les coûts. Hein, vous imaginez, vous allez chez votre boulanger, vous achetez votre baguette 1 euro, et puis au moment de payer, il dit « Ah non, finalement c'est 6 euros, puisque c'est ça ». C'est que la centrale, elle devait coûter 3,3 milliards. Et la Cour des comptes dit que ça devrait coûter, normalement, en 2024, quand ça commencera enfin à produire l'électricité, 19 milliards, quasiment 6 fois le prix annoncé au départ. C'est donc du vol, mais c'est du vol d'argent un peu public, donc personne ne dit rien. C'est EDF, il faut respecter EDF, tout ça. Et EDF se fait arnaquer, mais par son copain, Orano, qui est intégré d'ailleurs depuis maintenant dans EDF, donc tout va bien, mais au départ il ne l'était pas, enfin au départ, il ne l'était pas au moment de la commande de l'EPR, il a été il y a longtemps, c'est hein, les allers-retours du nucléaire. Donc voilà, c'est de la propagande, hein. Le but c'est, ça fait plaisir à tous les nucléophiles, voilà, on rappelle quand même que ça va coûter plusieurs millions d'euros, et que EDF est une des entreprises les plus endettées en termes d'entreprises fabricantes d'électricité en Europe, 42 milliards de dettes, et elle est censée avoir 50 milliards de provisions pour le démantèlement des centrales, et donc en grosso modo on peut dire qu'il lui manque 90 milliards dans les caisses. Hein. C'est ça dont il est question. EDF, c'est une entreprise mal gérée qui devrait être en faillite depuis très longtemps, mais qui ne l'est pas grâce au soutien de l'argent public. Hein. Alors du coup, on parle de Macron, qui est à Belfort, pour parler de sa stratégie énergétique pour la France de 2030. Donc c'est à la fois un truc prévu et c'est à la fois un discours de campagne sur ce qu'il fera quand il sera réélu président de la République. Alors il y est allé avec sa propagande, il a dit « nous avons du retard ». Donc il faut développer les énergies renouvelables d'ici 2050. Alors il commence comme ça sur les énergies renouvelables pour noyer le poisson. Hein. Donc il dit « concernant les énergies solaires, il va falloir multiplier la puissance par 10 d'ici 2050. Pour l'éolien terrestre, il va falloir la doubler. Pour l'éolien de mer, il n'y a rien, donc il va falloir passer à quelque chose de bien plus sérieux, d'avoir 40 parcs, dit-il. » On se dit « tiens, putain, il parle des renouvelables, c'est bien. » Bon, certes, il a fixé une date super loin 2050, alors que la majorité des pays européens ont un horizon à 2030. Bon, on va aller comprendre. Il parle d'un horizon de la France à 2030, mais pour le renouvelable, c'est 2050. Hein. C'est un vrai escroc, hein, dans la manière de présenter les choses, bien évidemment. Donc voilà, et alors il continue. Il y aura une stratégie dite plurielle. Alors, il explique pourquoi plurielle. Il dit, pour sortir des énergies fossiles et réduire la consommation d'énergie électrique, vous allez voir qu'il est incohérent dans son discours. De 40%, il veut réduire de 40% la consommation d'énergie. Le premier chantier, c'est consommer moins d'énergie et produire davantage d'énergie décarbonée. On se dit, ouais, vas-y, continue. Et il dit, le deuxième chantier, le chantier du siècle, c'est de produire davantage d'électricité décarbonée. Voilà, tout ça, il continue, puis ça y est, il dit, et il va donc falloir développer à la fois les renouvelables et le nucléaire. Je dis, tac, ça y est, il a placé enfin le mot nucléaire au bout de trois quarts d'heure de discours. Il continue, hein, en tant que militant de la croissance, il va se contredire, et tout de suite derrière, il dit, le monde de demain sera plus électrique. Nous devons être en mesure de produire jusqu'à 60% d'électricité en plus. Et quelques minutes avant, il avait dit, il fallait réduire de 40% la consommation d'énergie. Si tu réduis la consommation et que tu augmentes la production, il y a un souci, monsieur Macron. Donc il arnaque, hein, et il s'est planté dans son argumentaire, mais il s'en fout. Personne n'a rien vu, personne ne dira rien. Donc il dit, il faut produire plus d'électricité. Et pour cela, le moyen de le faire, et le faire le plus sûrement, c'est de développer les énergies renouvelables et le nucléaire. Tac, top, deuxième fois qu'il place le nucléaire. Enfin, il l'associe toujours au renouvelable pour avoir, ça s'appelle du ripollinage, hein, du greenwashing, il a tout repeint en vert, il met le renouvelable à côté du nucléaire, c'est joli, hein, vous mettez une belle photo de centrale nucléaire et vous avez une éolienne derrière. Hein. Il est en train de faire ça. Donc il martèle sa propagande et il dit après... Il va falloir faire en 30 ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles et renforcer notre indépendance énergétique et industrielle dans l'exemplarité climatique. Oh là là, on dit c'est la classe. Bon, c'est juste une belle propagande assez classique, hein, pour les défenseurs du tout radioactif, avec rien que dans cette phrase trois mensonges. C'est pas mal quand même, hein. Ce mec est un pur menteur. Donc là, premier mensonge, sur une prétendue indépendance. On rappelle, le combustible des centrales nucléaires, c'est de l'uranium. Il est 100% importé. D'ailleurs, on est au Mali, on vous rappelle quand même, parce qu'il y a le Niger à côté, qu'il faut protéger les mines. Bon, bref, premier mensonge. L'indépendance, elle est moyenne quand même, hein. Ensuite, en termes d'exemplarité climatique. Alors, ils sont arrivés, Macron et ses amis nucléophiles, à faire passer le nucléaire dans une énergie de transition. Mais on rappelle, malgré que ça soit soi-disant décarboné, ça émet deux fois plus de CO2 que les énergies renouvelables et que l'éolien notamment. Hein. Donc, du coup, c'est deux fois moins bien. Hein. Quant à l'impact sur le long terme, parce que ça, il va falloir gérer des déchets radioactifs pendant 100 000 ans. Et bah, bizarrement, l'impact en termes de CO2, de réchauffement climatique, et même d'impact tout court, comment faire ? Aucun ni de Macron, ni de ses amis ingénieurs, tout ça, n'est capable de chiffrer en termes de dépenses énergétiques, de problématiques, comment faire et quel coût ça va avoir ? Bah, faut dire que 100 000 ans, c'est compliqué. Hein, et personne n'est capable de faire ça du côté des nucléophiles, ce qui n'est pas rassurant du tout. Bon, bref, et le pire, donc ça c'est sur c'est le dernier mensonge. Alors, il va quand même loin. D'abord, il est méprisant puisqu'il dit, nous serons le premier grand pays. Alors, pour lui, il y a une échelle de valeur. Il y a des pays, c'est des connards, des merdes, c'est des petits pays, ils n'ont qu'à crever. On ne sait pas à qui ils pensent. Et puis il dit, nous la France, on a un grand pays. Ben, on va lui apprendre un truc, c'est qu'en fait, on est tous... Enfin voilà, il y a des pays, il n'y a pas de petits et de grands. Alors il peut y avoir des petits et grands en taille, en termes économiques, mais de globaliser, dire que ce pays, il est grand, ben, c'est un poil pourri quand même, c'est un poil méprisant de dire que la France serait grand et les autres seraient des merdes, hein, puisque c'est bien ça dont il est question. Donc... donc voilà, on est un grand pays, on va bizarrement, un grand pays sera le premier soi-disant à arriver à faire tout ça. Alors on se fixe un objectif en 2050 et on devrait arriver donc à 2030, 20 ans avant, à 50% de renouvelables à peu près, avec le discours de Macron. Ce qui est bizarre, c'est que pour un grand pays, on est carrément à la ramasse. On peut citer l'Allemagne et l'Autriche qui sont pas des petits pays non plus. L'Allemagne est bien plus fort économiquement, ils sont plus nombreux, enfin bon. Hein, hein. Sauf que l'Allemagne, ils seront 100% renouvelables en 2030. Alors que nous, on sera encore à 50%. Donc voilà, il se la pète, il fait le nationaliste à deux balles, il ment à tous les étages. C'est quand même difficile de faire pire comme discours. Et, bon, on s'attendait pas à beaucoup mieux. Hein. Ce qui est bizarre quand même, c'est que plein de pays dans le monde misent sur un 100% renouvelable d'ici 10, 20 ou 30 ans. Il y a déjà qui sont quasiment, hein, on rappelle. Et ça semble impossible au candidat Macron. C'est quand même bizarre. Donc il laisse entendre soit que nos ingénieurs sont archi nuls, alors que les ingénieurs des autres pays, des petits pays, sont meilleurs que nous, soit c'est que l'industrie nucléaire est un lobby suffisamment puissant pour imposer ses vues à un président candidat. Et on va dire que c'est ça, hein, parce que on voit pas pourquoi nos ingénieurs seraient plus nuls. Quoique, du coup, on a quand même des doutes. Hein. Bon, bref. Donc voilà, ensuite, le chef de l'État annonce qu'il va faire construire, il va rentrer dans le détail, 6 réacteurs EPR, les merdes là qu'on essaye de mettre en route, plus 8 autres, ce serait l'EPR 2, la deuxième génération, celle qui sera encore meilleure. Ou pire, enfin, après on verra. Hein. Donc voilà, et surtout, il a annoncé le Graal pour EDF. Il veut que les réacteurs nucléaires aillent au-delà de 50 ans. Je vous laisse regarder une technologie qui a 50 ans, la gueule que ça peut avoir. Hein, vous avez une cocotte minute, hein, le cœur du réacteur, c'est une cocotte minute qui est sous pression et qui est bombardée en permanence par des rayonnements radioactifs, ça a une sale gueule. Alors, ils ont changé des trucs, hein, quand même. Mais c'est un concept aberrant de vouloir essayer de garder un outil industriel vieillissant plutôt que de basculer sur des technologies modernes. Et là où la France et Macron, ils sont à la rue dans ce domaine-là et pas dans d'autres domaines, c'est assez bizarre. C'est qu'ils défendent de vieilles technologies en faisant croire que qu'il y a un avenir plutôt que de se pencher sur des nouvelles technologies. Même dans le nucléaire, il y a des nouvelles technologies. Alors vous allez me dire, il a vendu ses petits réacteurs nucléaires de merde. Oui, les small machin réacteurs, parce que Macron, il est comme les autres, il parle anglais, donc ça s'appelle les SMR, parce qu'il faut pas dire petit réacteur nucléaire, c'est has-been de parler français, il faut parler anglais. Donc des SMR, il vend ça, donc les SMR, il va donner 500 millions d'euros d'argent public à EDF, 500 millions d'euros à des petits start-up, pour essayer de fabriquer un premier prototype de ces fameux SMR, qui permettront d'avoir encore plus de déchets radioactifs, c'est génial. Donc voilà, un beau discours pro-nucléaire, on s'y attendait. La majorité des candidats sont pro-nucléaires. Il faut aller chercher chez les écolos ou la France insoumise pour avoir des candidats qui sont pas sous la pression du lobby nucléaire français. On en est là. À la fin, il restera que la France avec ses centrales partout. C'est catastrophique. Ce discours réactionnaire en termes d'énergie, hein, on parle pas de décroissance, en fait. On parle d'aucun des enjeux importants sur les déplacements, de changer le mode de déplacement de la voiture individuelle, de sortir de toutes ces logiques ultra consommatrices d'énergie. Non, pas du tout. Macron, il est dans cette lignée libérale et nucléophile.
Allez, on va parler des élections parce que
on
rigole un peu ce soir. Alors, on va commencer avec une amitié retrouvée qui est déjà un peu branle-ballée. C'est du côté de Madame Pécresse, candidate donc LR, qui a déjà 1249 parrainages. Hein. Elle est passée devant Monsieur Macron. Donc, c'est les nouveaux chiffres de ce jeudi 10 février. Alors, c'était cette amitié retrouvée avec Monsieur Laurent Wauquiez, notre président de région à nous. Et il y a un truc qui n'est pas bien passé, peut-être, du côté des Wauquiez. Je dis d'évoquer pour ne pas dire Laurent Wauquiez. D'évoquer. C'est qu'il y a un carton d'invitation qui disait réunion des comités de soutien de Valérie Pécresse, mercredi 9 février 18h, à l'invitation de Gérard Larcher, président du comité de soutien, et en plus petit dessous, Laurent Wauquiez. Il paraît que le plus petit dessous, ça a fait un peu crincer les dents, quoi. Donc, comment dirais-je, Valérie, quand on veut garder ses amis, on ne met pas en petit. Les nouvelles amies, on le met en aussi gros que Gérard Larcher, mais il paraît que comme c'est Gérard Larcher qui a la manœuvre de tout, Laurent Wauquiez, il se retrouve un peu mis en bout de table, hein, donc on sait pas bien comment ça s'est passé hier, est-ce qu'il y a quand même pu y avoir des serrages de main, mais du coup ça cause, ce qui est intéressant c'est que même dans les équipes de campagne ça va causer dans la presse et que ça se répand un peu en se moquant un peu, donc on se dit que bon, même eux ils aiment se fiche sur la figure, et puis en plus Madame Pécresse elle a encore perdu un soutien, c'est Éric Woerth
qui il est parti, il est méchant lui, hein. Un traître.
Qu'il soutenait Monsieur Macron, Monsieur Macron qui a donc 1050 parrainages, hein, qui s'est donc fait passer devant par Madame Pécresse en termes de parrainage validé par le Conseil constitutionnel. Donc, on s'y attendait un petit peu, paraît-il. Bon, moi, j'avais pas suivi l'affaire, mais il paraît qu'on s'y attendait. Ça n'a surpris personne. Mais il a donc donné une interview aux Parisiens, parce que c'est toujours mieux de tout raconter dans la presse tout de suite pour balancer son désaccord. Mais il a dit qu'il pense, je pense qu'il est le mieux à même de défendre l'intérêt de la France et des Français. Je pense profondément qu'un second mandat d'Emmanuel Macron serait une chance pour la France, comme ça aurait été le cas pour Nicolas Sarkozy. Donc, il a choisi et il explique que de toute façon, chez les Républicains, c'est mort, il ne se passe plus rien. Et alors, il nous a dit, Monsieur Woerth, un truc dingue, c'est qu'en fait, il parle trop de sujets sécuritaires et qu'il y en a marre.
Même Éric Woerth dit ça, vous avez qu'à voir.
Je veux dire, ça m'a laissé, mais alors je suis tombée de ma chaise et qu'il faudrait donc faire autre chose. Alors du côté de Julien Aubert, hein, qui est député LR du Vaucluse, il a tweeté « Pendant 5 ans, les Républicains ont été le théâtre de querelles entre Éric Woerth et Guillaume Pelletier ». Guillaume Pelletier, je vous rappelle, qui est parti chez Zemmour, sur l'économie. Si c'était pour terminer l'un chez Zemmour, l'autre chez Macron, ils auraient mieux fait de clarifier plus tôt. Voilà, parce que du coup, ça a créé tout plein d'emmerdes et qui dit que ça va bien un moment. Alors, du côté de M. Jacob, hein, on demande, donc président des Républicains, à M. Woerth de partir des Républicains, bien vouloir se barrer. Bon, le problème, c'est qu'il est un peu quand même pris, représentant quand même du président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et donc, tout ça au nom des Républicains, hein, quand même. Donc, Christian Jacob lui dit, il faudrait peut-être arrêter, hein, et puis définir. Oui. Il dit, il y a un minimum de dignité à avoir envers eux, ceux qui ont toujours été à ses côtés. Donc, en fait... quand même, ça ne le vit pas bien du côté de M. Jacob. Et il dit, il faut relativiser. Éric Woerth est un parlementaire en fin de carrière. Bah, paf, prends ça dans ta gueule. Voilà. Bon, mais en tout cas, on se marre bien. Du côté toujours de Pécresse, il y a Rachida Dati qui s'embrouille dans la presse avec le responsable de campagne, Patrick Stefanini, de Madame Pécresse. Tout ça par médias interposés, hein, puisque sur BFM, le 3 février dernier, Patrick Stefanini a dit qu'elle a été la candidate il y a 2 ans aux élections municipales de Paris et que tous les Français se souviennent de la façon dont ça s'est terminé, disant donc que Rachida Dati, elle sert à rien, hein, et que si on pouvait s'en débarrasser, ça serait pas mal. On rappelle qu'elle est maire Les Républicains du 7e arrondissement à Paris, et qu'elle va pas aider à servir la cause de Pécresse. Elle, du côté de Dati, elle répond, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats, en parlant de monsieur Stefanini. Il n'a jamais fait gagner Jacques Chirac. On va rétablir la vérité. La victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac d'abord et Antoine Ruffenacht qui était à la manœuvre. Patrick Stefanini, lui, n'existait pas. Paf. Et tout ça, c'est dans le camp des Républicains. Autant vous dire que Valérie, elle doit en entendre des trucs et qu'elle doit en avoir... par-dessus la tête, ça doit pas être facile, hein, quand même, tout ça. Bon, faut dire que Patrick Stefanini, si tout ça lui est reproché, c'est qu'il a été directeur de campagne de François Fillon en 2017. Comment vous dire, ça n'a pas été loin. Et puis on a appris aussi qu'il y avait une réunion secrète entre les camps Taubira et Jadot.
C'était très drôle.
Jadot qui n'a pour l'instant que 325 parrainages validés, hein. On attend les autres, ça devrait venir, mais enfin, ça vient très très doucement, hein, quand même. Donc sur LCI, il a été interrogé, hein, pour savoir pourquoi il y avait une réunion à Romainville, hein, c'est en Seine-Saint-Denis. Ça a été révélé par Le Monde et Politico, parce que tout ça a été très très secret. Pour vous dire, Sandrine Rousseau, elle n'était pas contente. Donc sur BFM TV, elle a ouvert sa bouche en disant « Je n'étais pas au courant ». Elle était très vexée, Sandrine Rousseau, de ne pas avoir été invitée, mise au courant et tout ça. Puis ça ne lui a pas bien plu, a priori, parce qu'il y a quand même des gens qui disent « Bon, du côté de Taubira, mince, on fait un machin, une élection, on veut la transparence et tout, puis derrière, on va faire une réunion secrète pour voir si on peut se rabibocher. » Et alors, donc Jadot sur LCI, il a dit « Les équipes de Taubira voulaient absolument discuter avec nous. Comme nous sommes courtois, nous avons accepté. »
Ils se foutent de la gueule du monde.
Ils se foutent de la gueule du sien. Et alors, Sandrine Rousseau qui s'énerve et tout, elle continue à tendre la main à Christiane Taubira. Et à chaque fois, en fait, c'est dans le même sens. C'est-à-dire que on dit à Taubira, mais viens chez nous. Viens si tu veux, on t'accueille. Hein, voilà. Bon, du côté de Taubira, il faut dire qu'en même temps, du côté des parrainages, pour l'instant, c'est...
ça décolle pas.
Non, ça décolle pas. Je suis en train de vous chercher le nombre exact, mais c'est pour dire qu'elle est en bas de ma liste. Elle est à 47 parrainages validés. Aujourd'hui, c'est très très peu. Alors, du côté du Parti Socialiste, il y a 790 parrainages validés. Bon, comme le fait remarquer Stéphane Le Foll, qui était l'invité de France 2, hein, je vous rappelle, il est l'ancien ministre de l'Agriculture quand il y avait encore des socialistes au pouvoir, hein, ça date, hein, maintenant. Pour lui, tout ça, c'est un micmac, on s'en sort pas. Mais... ce qui est marrant, c'est qu'il dit que donc, s'il avait bien compris, si je regarde les intentions de vote, dit-il, j'ai cru comprendre qu'on pouvait être derrière le Parti communiste. C'est quand même, au vu de l'histoire récente, un sujet d'interrogation. C'est bien, il y a quelqu'un au Parti socialiste qui se pose un peu des questions, parce que être à 4% des intentions d'élection de vote quand on a 790 parrainages,
ouais, il y a une différence.
Il y a un truc de marrant. Et puis bizarre. Du côté de Madame Le Pen, il y a 274 parrainages pour l'instant qui sont validés. Elle dit dans les médias, c'est ce qu'elle a dit hier mercredi sur Europe 1, qu'elle avait 400 parrainages d'annoncés. Mais que ils n'étaient pas tous envoyés, donc c'était normal qu'on les voyait pas tous apparaître sur le site du Conseil constitutionnel. Et elle a dit elle a commencé à menacer aussi, puisqu'on a appris qu'elle a expliqué à ses troupes que si jamais ceux et celles qui étaient au Rassemblement national et qui avaient la possibilité de parrainer, qu'ils le faisaient pas pour elle, ils allaient voir sa colère se répandre sur leur tête. Bah oui, parce que du coup, ils ont du mal hein, aussi au RN à rassembler, plus que d'habitude, où d'habitude, bah, finalement, c'était le petit parti d'extrême droite. Et là, maintenant, ils sont toujours d'extrême droite, mais le parti est un peu plus gros, ils ont un peu plus de mal qu'avant à trouver des parrainages. Mais c'est le cas hein, de M. Poutou aussi, dont nous parlons des fois dans cette émission. On ne parle jamais de son programme, peut-être qu'on le fera, mais j'en suis pas sûre. En tout cas, on ne risque pas d'en parler, puisque je me suis dit que j'allais en parler une fois que le 4 mars était passé. Mais pour l'instant, M. Poutou, il a que 146 parrainages. Alors autant vous dire que l'extrême gauche, elle est mal barrée, sauf que c'est pas toute l'extrême gauche qui est mal barrée, puisque Nathalie Arthaud, elle a 416 parrainages validés. On a encore quand même ce fantasme de cette extrême gauche.
Ouais, lutte ouvrière, ils y arrivent toujours.
Ouais, bah ils ont un vrai, je pense, réseau de terrain hein, quand même. Et voilà. Jean Lassalle aussi, hein, 382 parrainages, pas mal, comme Fabien Roussel, qui a fait beaucoup de bruit dimanche avec son meeting, avec aujourd'hui 381 parrainages validés, mais on n'en parle plus trop. Et puis je terminerai, parce qu'il me reste 2 minutes. Hein. Sur mon plaisir quand même, on en a parlé hein, Monsieur Zemmour était donc invité dans cette nouvelle émission politique sur BFM TV et moi mon plaisir a été de l'entendre se faire rabrouer par Zina Terki. Zina Terki c'est une jeune retraitée, elle habite à Aubervilliers et elle s'est pas laissée marcher dessus parce que d'abord on entendait très bien tout de suite que Zina elle aimait pas Monsieur Zemmour et qu'elle l'aime toujours pas et qu'elle aime encore moins je crois et que quand il a voulu la faire taire et eh ben, elle a continué à parler et elle s'est accrochée. Et M. Zemmour n'a pas l'habitude que des personnes, et en plus des femmes, puissent lui rentrer dedans. Et en plus des gens qui ne sont pas de son milieu a priori. Et lui a bien fait comprendre qu'il était raciste. Et en plus de ça, M. Zemmour lui a dit quand même, Zina n'est pas dans le calendrier, vous n'auriez pas dû vous appeler comme ça. Vos parents n'ont pas respecté la loi. Il a été jusqu'à lui dire ça, ce qu'il a mis grave en colère, Zina. Et moi, je suis très contente que quelqu'un lui ait rentré dedans quand même. Ouais.
Voilà, il va falloir terminer ce Canu Info pour laisser la place à l'émission suivante, qui était une émission de musique, le Wolf Holmes Music Club. Et ce sera une émission spéciale rap français des années 90. Hein,
yes.
Assassin, tout ça. Yes. Toi, ça va te rappeler des choses.
Ça va me rappeler des choses. Ouais.
Assassin de la police, yeah, allez.
Yeah. Je fais bien.
Vous avez... ouais. On vous laisse un bout de bande continue avant que le camarade arrive.
Ciao, à la semaine prochaine.
Bye bye.